Épisode numéro 19, que je suis content de vous parler. Les codes d'écoute qui réexplosent, les gens qui recommencent à écouter des podcasts se déconfinent tranquillement. Beaucoup de sujets, beaucoup de discussions cette semaine. Le 91.9 Sport. Eux qui ont la chance d'avoir un chroniqueur box, pas piqué des verres du tout. Cette semaine, j'étais là un mercredi. Et ils ont vraiment pris le lead de la box pendant qu'il se passe rien avec le confinement. Et cette semaine, on a vu Sadreddin Akhmedov. Ça, c'est un de mes sujets aujourd'hui. Tous les chemins mènent à Sadreddin Akhmedov. T'appelles chez Eye of the Tiger, tu réponds, ils répondent « Bonjour Eye of the Tiger », tu n'as même pas le temps de te présenter, ils te demandent si tu veux affronter Sadreddin Akhmedov. Et là, ça a amené un peu à toutes sortes de discussions qui ont même été parfois un peu, sans dire violentes, là, ça a brassé un peu. On a vu cette semaine Patrice Volney et Steven Butler qui se sont relancés. Fait que je vais vous en parler. Ça, c'est clairement un de mes dossiers. Régent Tremblay va présenter dans le Journal de Montréal son top 10 des plus grands boxeurs québécois d'histoire et qui, actuellement, pourrait percer le top 10, qui a le talent pour percer le top 10 dans les années à venir. Ça, c'est intéressant aussi. Francis Paquin et Jean-Luc Legendre ont fait un podcast vidéo pour nous parler de eux, leur choix des plus grands boxeurs depuis les années 2000. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'actualité en boxe, fait qu'on est obligé de se lancer dans les tops historiques. Puis moi, je vais vous le dire tout de suite, en pleine introduction, je trouve que c'est l'exercice le plus difficile et le moins précis de l'histoire. Comment vous voulez vraiment comparer ou me dire qui aurait gagné en Jack de l'année, le préféré de Martin Achard, Avila Chapdelaine et Eladair Alvarez? On peut pas vraiment faire cet exercice-là. Comment vous voulez comparer Léonard Dorin avec Oscar Rivas? Ça devient là, vraiment compliqué. Mais c'est les gens font l'exercice, puis tu sais, votre top 10 à vous est aussi bon que le nôtre, que le mien. Il y a eu un gars là au Nicaragua avec des mesures de sécurité exceptionnelles. Je suis allé regarder les vidéos, je vais vous raconter ça. Il y a eu un gars là en Corée, eux c'était plutôt simple, il n'y a pas un chat dans la foule, fait que c'était un peu moins dangereux. Et en fin de semaine, qui s'en vient? Si ma mémoire est bonne, plus en début de semaine, le 5 mai, il va y avoir un gros combat entre Wizanzil Winkangek. Ça, c'est lui qui a battu Roman Chocolatito Gonzalez deux fois. Il va affronter Amnat Ruengrong. C'est vraiment le premier combat de l'après ou pendant le coronavirus dans des studios de télé en Thaïlande. Je vais aussi vous parler de ce combat-là, de comment eux ils s'y prennent. Sinon, vive la boxe. Ça, on voit là qu'il y a une relance au Québec. On parle beaucoup des combats. Aux États-Unis, il y a beaucoup de nouvelles aussi. Ça va être intéressant cette semaine. Restez à l'écoute.
Il semble qu'on refuse quoi que ce soit à cause que tu nous challenges puis on t'envoie pas de contrat. Tu essaies de faire un game plan, tu essaies de je sais pas trop faire quoi. Mais ton promoteur, là, il a fait une esti de job de merde avec toi parce que oui, t'es bon. T'as fait aucune finale au Québec. Je sais pas combien que tu fais par bourse ou quoi que ce soit, là, mais ton promoteur, c'est comme si ça n'aurait pas en ce moment. Okay? Le basketeur, là, the bullshit. Mm-hmm. Tu comprends? Moi, je suis avec Ice of Tiger, puis regarde où que je suis. Je ne suis même pas battu pour une ceinture WBA, mais je suis battu en combat de championnat du monde.
Et pour l'article, il est ici. Tu peux le trouver sur Jean Coutu, sur Internet, un peu partout. Et le titre, il dit « Volney lève la main pour Butler ». Donc, sachant avec les conditions avec le COVID-19 qu'il est impossible d'avoir des combats avec des personnes de l'extérieur, je me porte volontaire de monter dans le ring avec toi. Donc, je ne vois pas de vous parler de contrat ou de ci ou de ça, ou avec vos 50 000, ci et ça. Je dis bien que moi, je suis prêt à monter dans le ring avec toi.
Je vais toujours être un très grand fan de Patrice Volny. C'est un boxeur que j'ai découvert quand il est passé chez les professionnels. J'étais encore dans un temps où je suivais très peu la boxe amateur. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un passait chez les pros, j'appelais mon bon ami, le professeur Kenny Chéri. Puis là, je lui demandais, Kenny, peux-tu m'expliquer c'est qui Patrice Volney? Puis Kenny m'avait dit, c'est le gars qui a perdu le plus de finales de tournois au Québec de manière controversée. Il dit, souvent en finale, il gagne pas toujours, puis c'est toujours controversé. Je suis allé voir un combat de lui au club de boxe de l'Est sur vidéo où il affronte Éric Bazignan. Si vous êtes à la maison, ouvrez vos YouTube. C'est la guerre sur le ring, puis il y a du monde dans la foule, c'est épouvantable. Volny, il a un bon classement. Il est classé. J'ai ça ici dans mes archives. Attendez, là, je suis obligé d'ouvrir mon vidéo pour ouvrir mon ordinateur. Volny est classé quatrième à la WBA, sixième à la IBF et huitième à la WBO. Ça, c'est quand même spectaculaire. Okay? Le gars est classé dans trois divisions de poids chez les poids moyens. Il était supposé affronter Magomed Madiev, un boxeur russe, pour le rôle d'aspirant numéro un, 2 semaines avant que Butler affronte Murata. J'ai entendu entre les branches que la bourse était de 55 000 beaux dollars. Toutefois, Madiev ne réussit pas à avoir son permis de travail aux États-Unis, peut pas se battre, tout tombe à l'eau, puis le pauvre Volny perd son combat. Après, ben, vous connaissez la suite, là. Ce coronavirus, on ne peut plus rien faire au Québec. Fait que là, on continue l'histoire. Camille Estéphane, là vous allez voir un peu le double discours de Camille. Il sort publiquement pour dire « J'ai 25 boxeurs professionnels, il faut que je leur trouve chacun un adversaire canadien, puis c'est quasi impossible. » On entend beaucoup parler des négociations pour trouver un adversaire à Sadriddin Akhmedov. Et il y a environ 2 semaines et demie, Camille a déclaré « Je verrais bien un combat entre Francis Lafrenière et Steven Butler. » Toutefois, les négociations arrivent jamais. Fait que Patrice Volny, là, ben lui, il faut qu'il mange, puis il faut qu'il se batte. C'est pareil comme tout le monde. Ben nous, il faut qu'on mange, ben on se bat pas, mais lui, son métier, c'est de boxer. Fait qu'il se lève un matin, puis il se dit, ben moi, je suis capable d'affronter Steven Butler, il n'y a pas de problème, je suis classé 4e, il est classé 14e, il revient d'un combat de championnat du monde, ben je vais lui offrir... je vais lui offrir une chance de gagner des classements. Puis moi, mais ça va me faire boxer. Il se lève un matin, Mathieu Boulay le rejoint, puis ils font un texte dans le Journal de Montréal. Un texte excellent. OK? Qu'est-ce qui se passe? Steven, un peu piqué au vif, il fait une vidéo, puis là, il tombe dans les pièges un peu du métier de boxeur. Parce que Volny, si vous le connaissez pas, c'est l'homme le plus gentil de la planète. T'sais. Volny, là, c'est un chic type. Il parle bien, il est doux, il est gentil. T'as le goût de se faire garder tes enfants. David Tétrault me racontait que Volny s'entraîne au club de boxe de l'Est. Et il corrige, ben pas il corrige, mais il offre de l'aide à peu près à tout le monde. T'sais. Il dit, oh, t'sais, tu devrais lancer ton coup comme ça. Puis il est gentil, puis il enseigne un peu sa science à tout le monde. Fait que Butler tombe dans le piège, puis il commence à dire « T'as fait combien de finales ici? Tu sais, la vidéo que je vous ai envoyée. » Puis il dit « Moi, je suis là. Moi, je suis ici. Tu sais, moi, je suis meilleur que toi, dans le fond. Je suis plus haut que toi. » Puis là, il est prêt à l'affronter, mais là, il joue un peu avec les mots, parce que Camille cherche 25 boxeurs canadiens pour affronter ses 25 boxeurs. Volny lève la main. Puis là, Steven, il nous lance une tirade où il dit « C'était à lui de nous envoyer un contrat. Tu comprends pas comment ça marche, la boxe. » Puis Lee Baxter, c'était un pas bon. tu sais, il tombe un peu dans le piège de, au lieu de simplement répondre, ben oui, ça m'intéresse, envoyer un contrat ou non, ça m'intéresse pas pour X raisons. Puis là, comme sorti d'une boîte à surprise, parce que moi, l'impression que tout ça me donne, c'est que Volny, il est beaucoup trop fort pour le combat de retour de Steven depuis le Japon. Puis que dans le fond, Steven a déjà perdu 2 combats, il a 24 ans. On veut pas prendre le risque d'affronter Volny. C'est pas un bon calcul à ce stade-ci de sa carrière. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Puis là, on nous revient et on dit « Oh, on a un combat avec Marco Reyes, le Mexicain. » C'est un peu surprenant, ça, parce que on entendait que ça prenait des Canadiens. On entendait qu'on serait 8 mois à s'affronter entre nous autres au Canada. Là, le discours vire à 180 degrés. Ah oh non, Steven, lui, il est réservé Marco Reyes en septembre. Alors que, je ne sais pas si vous avez suivi une nouvelle, on est vendredi aujourd'hui, c'est la journée qui a eu le plus de morts du coronavirus au Québec. Il n'y a absolument aucune garantie qu'on va lever les frontières ou qu'on va accepter les vols. Puis, tu sais, de penser qu'un Mexicain va affronter un Québécois, ne serait-ce qu'en Californie... Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Tu peux pas dire que ça va avoir lieu en septembre. Mais on s'est un peu caché derrière ça pour pas affronter Volny. Moi, je vous le dis, si ce combat-là a lieu, Volny, là, c'est le Paul William du Québec. Il est bon à l'intérieur, il est bon à l'extérieur, il a des grands bras. Mais il a trimé dur contre Ryan Young. Il a trimé assez... un peu. Il a quand même eu un peu de difficulté contre Uriel Gonzalez. Un gars que Steven a décapité au 2e round. Si jamais le combat a lieu, mon argent va être sur Steven, mais ça va être une guerre de tous les moments. Ça va être un combat serré, que les deux vont probablement avoir leur moment. Puis ça passerait automatiquement à l'histoire. Mais, je vais vous confirmer mon opinion... un peu déçu de la manière que Steven s'est comporté, de comparer son promoteur avec Lee Baxter en disant « C'était jamais battu au Québec ». Je trouve qu'il est tombé un peu dans le piège d'être arrogant et hargneux au lieu de simplement répondre poliment à Volny, qui, lui, a jamais été déplacé dans cette histoire-là. Volny-Butler, je ne sais pas si ça va avoir lieu là ou dans 7 ans, comme on a entendu. Mais les gars sont au même poids. Un box pour le promoteur ontarien, l'autre box pour un promoteur québécois. Je vois pas pourquoi ce combat-là n'aurait pas lieu dans les prochaines années. Puis je vous le dis, ça serait une guerre de tous les moments. Pour ceux qui connaissent pas Patrice Volny, surnommé Vicious, allez voir ça sur YouTube. Un des bons boxeurs québécois qu'on oublie parce qu'à un moment donné dans sa carrière, il n'a pas reçu d'offre de Jim ou de Eye of the Tiger. Puis, ben, il s'est tourné en Ontario. Il a signé avec Lee Baxter. Est entraîné par Éric Bélanger. Et au moment que vous écoutez ce podcast-là, vous pouvez aller voir sur Boxing Town de Québec. On a une entrevue de Vincent Tremblay avec Patrice Volny. Puis, on va suivre les déroulements dans les prochaines semaines.
En tout cas, moi, j'achète ce combat-là en crise, là.
Vous venez pas dire la carotte, t'es comme Laurent Poulain. Teteux. Ben, j'ai d'abord une adresse à Laurent Poulain aussi.
Oui.
As-tu vu plus teteux que ça? Marie-Ève Dicker fait plaisir à son nouvel ami. Non, mais c'est incroyable que j'ai éduqué et élevé cet enfant.
Tu sais, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'allais tout le temps... au centre-ville acheter le Ring Magazine, puis il ambitionne sur le pain béni, tu sais, ça coûte quasiment 10,5$. Fait que de ce temps-ci, je l'achetais plus, puis je voulais plus rien savoir, puis en plus, le kiosque pas loin du métro Berry où j'achetais, tu sais, ils appellent ça une tabagie où tu vas acheter tes revues, ben ça a fait faillite, tu sais, j'étais allé, puis c'était fermé. Donc j'étais, je me tenais loin du Ring Magazine, puis j'ai découvert, en feuilletant mes applications sur le App Store, que on peut acheter l'application Ring TV. Ça, c'est gratuit, mais je peux m'abonner à la version digitale du Ring Magazine pour seulement 2,49. Fait que là, je me suis dit, bon, 2,5 piastres, je dois avoir ça qui traîne à quelque part. Donc, j'ai payé parce que cette semaine, ce mois-ci, pour vous dire comment c'est gros, là, le monde entier est en amour avec Arslan Bek Makhmoudov. On a vraiment tout un boxeur sous la main. On est chanceux d'avoir réussi à l'attirer ici. Et tout le monde est convaincu que c'est une future superstar. Et là, c'est Enson Wainwright, un journaliste, qui nous le présente. Et j'ai appris des petites choses, ok? Je vais vous descendre ça. J'ai appris qu'Arslan Bek Makhmoudov avait 30 ans. Bon, ben, ça, c'est pas vrai, là. On le savait tous qu'il avait 30 ans. Il est né à Mosdok, en Russie. Il habite à Montréal. Il boxe chez les poids lourds. 6 pieds 5 et demi. Fiche amateur exceptionnelle. 90 victoires, 10 défaites. Il est entraîné par Marc Ramsey. Son manager, c'est Camille Estéphane. On est au courant de tout ça. Pour lui, il dit que sa performance la plus impressionnante, c'est d'avoir assommé Samuel Peter dès le premier round. Il raconte qu'à l'entraînement, il s'est entraîné avec Joey Daweshko et Oscar Rivas, donc il était très bien préparé. Il dit que sa pire performance, c'est contre Julian Fernandez, où il a l'impression que techniquement, il a été pourri dans ce combat-là. Au milieu du mois de mars, Arslan Bek Makhmoudov a signé une entente de copromotion avec Golden Boy Promotion. Il aurait déjà fait ses débuts sous la bannière de Golden Boy si ce n'était pas de la COVID-19. Eux, ils disent tout le temps, ils font tout le temps dans leur, ils appellent ça New Face, que je traduirais librement par nouvelle figure. Et ils présentent toujours pourquoi c'est un prospect et pourquoi, qu'est-ce qui pourrait jouer pour lui et qu'est-ce qui pourrait jouer contre lui. Pour lui, on nous raconte qu'il a eu une grande carrière amateur, qu'il a été champion russe chez les 19-22 ans, qu'il a été classé numéro 1 dans les séries mondiales de boxe dans la saison 14-15, qu'il y a des victoires chez les amateurs contre Mahamadrasoul Majidov, Eric Pfeffer et Mihai Nistor. Ça, d'avoir battu Mihai Nistor, je sais que c'est un exploit, je le lis à peu près partout. Il raconte qu'il voulait aller aux Olympiques, mais que ses rêves se sont dissipés parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers pour y aller et que ça ne lui tentait pas de jouer de la politique. Donc, il a sacré son camp au Canada, ici, en 2017. Là, c'est Camille Estéphane qui raconte qu'on lui dit qu'il y a un talent particulier chez Marc Ramsey, un gars qu'il faut absolument qu'on aille voir. Ça le dit pas dans l'article, mais je vous rappelle que c'est groupe Yvon Michel qui va signer Arslan Bek Makhmoudov. Il va disparaître plusieurs mois sans qu'on le voit boxer. Il revient chez groupe. Et là, on nous dit que c'est réglé chez groupe Yvon Michel, qu'on s'est entendu avec son gérant, son équipe de gérance. Toutefois, c'est Arthur Beterbiev qui est rendu son gérant. Lui négocie avec Camille Estéphane et ça, l'article dans le journal a passé de Arslan Bek Makhmoudov signe chez Jim à Arslan Bek Makhmoudov signe chez Eye of the Tiger. Tout ça en 72 heures. Ce qui joue contre lui, c'est eux, ils disent qu'il a déjà 30 ans. Sans dire qu'il est vieux, ils disent que c'est le temps ou jamais, il faut que ça aille vite pour lui. Camille Estéphane, mais c'est marqué, son équipe croit qu'il est à 3 ou 4 combats d'être prêt parce qu'il faut qu'il s'habitue à la chaleur des lumières et des projecteurs avant d'aller pour un combat de championnat du monde. On dit qu'il faut absolument lui trouver une meilleure opposition. Et là, on va parler de Carlos Takam, Robert Hellenius ou Prince Charles Martin. On veut s'assurer qu'il soit capable de prendre un gros coup de poing en l'amenant contre un de ces boxeurs-là. Il raconte aussi que ben lui, il est né dans le sud de la Russie, près des frontières géorgiennes, et que c'est son père. On apprend que son père est un conducteur, un chauffeur d'autobus, désolé, que sa mère est une professeure et que c'est son oncle qui l'a amené pour la première fois dans un gymnase de boxe à 9 ans et que pendant qu'il s'en va vers le gymnase de boxe, son oncle lui dit « Un jour, tu vas être une grande star contre moi, comme Mohamed Ali et Mike Tyson. » Et il dit que c'est ça qui le garde motivé depuis maintenant près de 20 ans. 20 ans plus tard, après avoir fait ses débuts dans un gymnase de boxe. Le coronavirus m'a donné l'idée de ce nouveau segment que j'ai commencé la semaine passée quand j'ai raconté Ronald Wright contre Félix Trinidad. Un autre de mes combats favoris, parce qu'il y a toute une histoire derrière, c'est Kelly de Ghost Pavlik contre Bernard The Executioner Hopkins. Je recule dans mes souvenirs. On est un 18 octobre 2008. C'est arrivé trois fois dans ma vie que je me suis levé un matin puis que j'ai dit ce soir, Bernard Hopkins mange une volée. Il est trop vieux. Ça va être gênant. Les trois fois, il m'a fait passer pour un fou. Contre Antonio Tarver, contre Kelly Pavlik, et contre Jean-Pascal la première fois à Québec. Hopkins a 43 ans et Kelly Pavlik a 26 ans. On est au Boardwalk à New York, j'imagine. J'avoue, moi je suis pas bon, je me rappelle jamais les combats ont lieu où. Je me rappelle les combats, mais pas où ils ont eu lieu. Et il y a 11 332 spectateurs. Et moi, je me dirige au... Dans ce temps-là, il y a un bar, mais ça existe encore aujourd'hui, le Barjo, sur Beaubien, proche de l'Angelier. Je sais qu'il diffuse tous les combats de boxe. Puis on est amis avec le gérant, puis la fille qui sert l'alcool et les shooters, on est allé à l'école avec, et elle est magnifique. Ceux qui se souviennent d'elle, elle a des taches de rousseur... Elle est incroyable. Moi, je suis complètement en amour. Puis, je commande des shooters. Je laisse plein de pourboires en pensant que je vais avoir plus de chance. Puis, ça n'a jamais fonctionné. Fait que le combat a lieu. Puis, une des raisons pour laquelle je m'en rappelle là, vraiment comme si c'était hier, c'est que moi, j'étais avec à peu près une trentaine d'amis de toutes les nationalités. Il rentre un skinhead avec un manteau de cuir. Et là, il s'assoit en avant de nous autres. Puis il y a comme un écran géant. Et là, dès que ça commence l'entrée vers le ring, il lance des propos racistes à Bernard Hopkins. Puis il crie vraiment... il crie après Hopkins. T'es un noir, tu sais, puis ça, c'est pas beau. Puis, il est raciste, il dit, tu vas manger une volée. Puis, moi, je suis découragé, mais en même temps, ça me rend quasiment Hopkins sympathique, parce que j'ai peur que ce pauvre gars-là réussisse sa game raciale, tu sais, je veux pas voir Hopkins manger une volée puis donner raison à ce skinhead-là. Fait que ça me rend Hopkins sympathique avant même que le combat commence. Et là, le combat, c'est un massacre. Au premier round, on a un combat. Tu sais, ça commence. Hopkins commence doucement. Ici, j'ai les chiffres devant moi. 34-26 au premier round. Mais après ça, c'est effrayant. Hopkins va lancer plus de coups de poing que Pavlik dans 10 des 12 rondes. Il va réussir 100, il va lander 172 fois sur la cible contre 108 fois pour Pavlik. Mais Pavlik n'a aucune force de frappe, il a monté de catégorie de poids. Les trois juges ont 119-106. Ça vous donne une idée du massacre. 118-108 et 117-109. ESPN, lui, a 119-107 pour Hopkins. Fait que il voit absolument rien, Pavlik. Là. Il se fait débattir. Il n'y a aucun succès à l'attaque. C'est un massacre. Le combat a lieu à 170 livres, 5 livres en dessous de la limite des 175. Puis, à l'époque, Pavlik, lui, il a le même manager que Michael Zouski, qui est Cameron Duncan. Puis, mon pauvre... Pauvre Cameron est découragé dans la foule. Puis Pavlik va même perdre un point pour frapper derrière la tête. Hopkins va en perdre un parce qu'il accroche trop. Tu sais, c'est pas si cute que ça sur le ring. Mais c'est une correction en règle, une leçon de boxe. Tu sais, quand on dit t'as été pris par la main, puis t'as été amené à la petite école Bernard Hopkins. C'est en plein ce combat-là. Hopkins va gagner 3 millions. Pavlik va gagner 3 millions. Puis tout est là. C'est la plus grosse correction à laquelle j'ai assisté que je m'attendais pas. Tu sais, des fois, un boxeur va se faire corriger. Tu t'y attends, négligé à 63 contre 1. Mais là, Pavlik était largement favori, puis il a pas gagné la moindre minute dans le combat. Puis moi, je m'étais tellement fait aller à marboulette que c'était la fin de Bernard Hopkins, que 43 ans allait toujours être 43 ans, que la quarantaine, tout le monde vieillit, que là, ça allait le frapper, que les poumons d'un gars de 26 ans contre 43 et... J'ai parlé comme j'ai jamais parlé avant que ça commence. J'ai eu l'air d'un maudit fou. Puis je suis rentré chez nous avec la 18 beau bien par après. Écoutez ça, ça vous tente, mais je vous le dis, c'est pas un combat équilibré. Avec Simon Kane, c'est pas seulement sur le ring que ça déménage. Contactez Déménagement Simon Kane pour un déménagement qui déménage. Les actualités québécoises avec... Laurent Poulain, ça c'est moi-même. Je veux vous parler de quelques actualités qui sont arrivées au Québec dans les derniers jours. Il y a des choses parfois que je ne vois pas passer, mais on me les envoie en privé sur Boxing Town Québec. Yvon Michel est sorti, il a fait son annonce qu'il allait avoir un gala le 19 septembre prochain. Au Québec, avec Kim Clavel en finale, possiblement en huis clos, ça c'est à suivre, mais qui allait nous vendre ça sur une sorte de canal Indigo, de télé à la carte. Et là, je vais y aller chronologiquement parce que je veux pas... Je vais y aller avec comment les nouvelles sont sorties, là. Je ne prends pas position dans ce débat-là, mais des fois c'est drôle. Yvon Michel réserve une date à la régie le 19 septembre prochain et on apprend dans un texte de Radio-Canada que Eye of the Tiger réserve la date du 18 et du 17 septembre prochain. Imaginez le fouillis. Trois galas de boxe en trois jours, en huis clos, à TVA, sur un télé à la carte. Avec les journalistes qui ne sauront plus où donner de la tête. Et le 18 septembre, c'est Simon Kane qui ferait les frais de la finale contre un adversaire. C'est marqué un adversaire qui va lui permettre de grandir, mais qu'on ne connaît pas pour le moment. Moi, je gagerais un vieux 7-Up que c'est France Real. Mais ça fait 4 ans qu'à chaque fois que Simon a un nouvel adversaire, je vous dis que c'est France Real. Un gars qui a perdu contre Robert Hellenius et un autre que je me souviens plus, mais tu sais, s'il a accepté d'affronter Hellenius, puis je pense que c'est... Je me souviens pas de l'autre, je pense que c'est un Suisse, mais en tout cas, il a perdu deux fois contre l'élite, donc pour lui, c'est vraiment pas un problème d'affronter Simon Kane, et c'est un boxeur de Tyler Buxton avec qui on sait que Camille a fait une entente cette semaine. Aussi, on a appris qu'il n'y aurait pas de tournoi chez les 140 livres et que Ivulis et Baptiste Kenbaev allaient se battre aux États-Unis quelque part en 2020 quand ce sera permis. Je veux vous parler aussi de des fameux top 10 qu'on voit partout. Tu sais, RDS avec Jean-Luc Lejeune et Francis Paquin ont fait un top 10. Top 20, je pense, des top 10 des meilleurs boxeurs québécois depuis 2000. Régent Tremblay, dans le journal de samedi, pour vous situer, a fait un top 10 des meilleurs boxeurs de l'histoire. Et là, je vais vous dire, dans un argument très simple et rapide, pourquoi je suis en total désaccord avec les top 10 et pourquoi ça ne se tient pas. Parce que si vous prenez tout ça dans un melting pot, moi, je trouve ça compliqué parce que Eladair Alvarez se retrouve derrière Jean Pascal et Luciane Bouté, deux boxeurs qu'il a pourtant battu. Il a aussi battu Sergei Kovalev. Alvarez a juste une défaite, puis on va le mettre loin derrière Bouté puis Pascal qui ont 5 défaites respectivement. Après ça, on va mettre un boxeur comme Jean Pascal, super haut parce qu'il a été 2 fois champion du monde. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans un classement comme ça, je croirais que la façon que les gens raisonnent, ils vont mettre tous les gars qui ont été champions du monde dans un top 10. Regardez Otis Grant, Léonard Dorin, Dave Hilton, Joachim Alcine. T'sais, on est porté à tous les parachutés. Mais eux, ils ont été champions dans une époque où il y avait 14 catégories de poids, puis grâce à la WBA, des fois jusqu'à 5, 6, 7 ou 8 champions par division. Alors qu'à l'époque, il n'y avait que la WBC et la WBA. Pensez-y, il y avait 2 champions, puis il y avait 8 catégories de poids. Ça, si vous faites le calcul, 8 catégories de poids, 2 champions, ça veut dire qu'il y avait 16 champions dans le monde. Aujourd'hui, il y a 14 catégories de poids. On va faire une moyenne de 6 champions. Si je sais encore compter, ça fait 96 à 16. Si je sais encore compter, 16 fois 2 fois 6, bon... À l'époque, c'était 6 fois plus difficile d'être champion. Ça veut dire qu'un gars comme Armand Savoie, qui était considéré comme le 5e meilleur dans sa division, ou Lionel Brosso, qui était classé 3e, ou un gars comme Jake Delaney, qui a été champion du monde aussi, c'était immensément plus difficile d'être champion. Je vais vous donner un autre exemple. Chez les lourds, il n'y a pas eu de champion entre Tommy Burns puis Berman Stiverne. Il y a quasiment 100 ans entre les deux. Mais est-ce que ça veut dire qu'un gars comme Robert Cléroux, qui était classé 5e, était peut-être le 7e meilleur poids lourd au monde? Aujourd'hui, il y en a qui sont champions du monde, qui sont dans des top 40 sur Boxrec. C'est qu'on a tendance à maximiser l'importance des ceintures de championnat, mais prioriser les ceintures de championnat puis mettre ces boxeurs-là devant des boxeurs de l'époque qui, eux, dominaient des divisions ou qui n'avaient pas la prolifération, ça, c'est pas facile à dire, des ceintures comme aujourd'hui. Tu sais, un gars comme Donato Paduano ou Robert Cléroux aurait été champion du monde dans l'époque actuelle dans laquelle on vit. Même un gars comme Fernand Marcotte ou Eddie Mello. On a tendance à dire, à mettre en comparaison le nombre de ceintures de championnat qui ont été gagnées sous la promotion de Régis Lévesque comparativement à sous la promotion de Eye of the Tiger ou Yvon Michel. Mais on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas comparer les époques. C'est un peu comme aujourd'hui, un gars comme Dimitri Kucherov va avoir la saison de sa vie avec 126 points. À l'époque, il y avait 6 compteurs de 163 points dans certaines années. C'était la même ligue, mais c'était pas les mêmes règles et le même jeu. Aujourd'hui, ça s'appelle toujours de la boxe, mais c'est pas les mêmes paramètres, c'est pas le même nombre de catégories de poids. Il faut tout de même être honnête avec tout ça. C'est pourquoi j'aime pas les top 10, mais à la limite, tu sais, ça fait parler de boxe, mais c'est très, très, très difficile de comparer les époques et de dire, tu sais, Robert Cléroux doit être derrière Oscar Rivas. On peut pas vraiment faire ça. Yeah, coriace. Hey yo, lave les deux mains avec plein de savon. Tous dans ton coude, sinon t'as l'air con. Viens pas chez nous si t'as bien un voyage. Reste chez vous même si t'as pas l'air malade. Reste chez vous. Hashtag on se protège. Un message du gouvernement du Québec. Dans la vie, il y a trois choses que j'aime beaucoup. La boxe, manger et Céleste Baillargeon. Mais pas toutes dans la même phrase. Céleste Baillargeon, c'est une fille qui habite pas loin de chez nous, que j'ai connue. Et c'est une grande fan de boxe et une grande boxeuse elle-même. Elle vient de gagner les gants dorés à 54 kilos. Après ça, elle a gagné le défi des champions. Puis quand je lui ai parlé, à travers notre grande amitié, je me suis rendu compte que ça coûtait super cher pour une athlète d'élite de pouvoir participer à toutes les compétitions. C'est ridicule, toutes les chambres d'hôtel, tout le gaz qu'il faut payer. Tu sais, tu t'en vas d'une compétition, tu gagnes le vendredi soir, ta finale est le dimanche. C'est trop loin pour revenir, il faut que tu te payes deux chambres d'hôtel. J'étais complètement découragé, moi qui, la dernière fois que j'ai sorti un 20 de mon portefeuille, la reine a eu mal aux yeux. Fait que ça vous donne une idée que je suis pas trop dépensier. Fait que je me suis dit, il faut que j'aide quelqu'un. Il faut qu'on aide, moi et vous les auditeurs, quelqu'un. Donc j'ai choisi Céleste, puis là je me suis dit, ben, on ne pourra pas payer toutes ces compétitions, mais on va essayer d'en payer. De payer une fin de semaine ou de payer, je sais pas, payer un plein de gaz pour aller à Québec. Donc, je vous annonce officiellement la fondation, la création de la fondation Laurent Poulin venant en aide à Céleste Baillargeon. Nous, au lieu de venir en aide à tous les jeunes du Québec, on va venir en aide à Céleste, t'sais. C'est déjà une jeune, fait que si tout le monde sauve une jeune, mais il n'y en aura plus à sauver. Donc, j'ai pensé à un magnifique chandail avec ma face dessus, avec un corps découpé, vous allez voir. C'est ça. Quand tu payes un graphiste, puis tu peux choisir ce que tu veux, tu lui dis, mets-moi un haut du corps qui a du bon sens, pas obligé que ce soit réaliste. Ma face, c'est écrit « Laurent s'écoute parler ». Et là que c'est les merveilleux. Le chandail est en dry fit pour que vous puissiez aller vous entraîner avec. Il y a d'autres boxeurs professionnels que je ne nommerai pas qui vendent la même qualité de chandail à 30$. J'ai vu du 35$. Moi, je vais vous demander juste 15$. C'est sensiblement le prix que je paye pour le chandail tellement qu'il est de grande qualité. Je vais garder un infime profit qui sera remis entièrement à Céleste. Donc, c'est sûr qu'on ne remettra pas 10 000$ parce que, à moins que je vende beaucoup de chandail, mais on va faire notre petit effort de guerre. C'est l'athlète qu'on va suivre. C'est une fille qui est drôle, gentille et agréable et un peu hyperactive. Tu sais, je vais vous donner une petite anecdote sur Céleste. Elle aurait pu rester chez elle à collecter le programme de crédit d'urgence, le fameux PCU de 2000$. Puis, je te dis, là, elle shakeait chez eux. Ben, au jour 2, elle ne savait plus quoi faire. Elle n'en pouvait plus d'être confinée. Elle est allée se faire engager. On va nommer la compagnie chez Altitude Sport, où elle travaille en arrière, puis dans ce qu'on appelle dans l'entrepôt, à remplir des commandes, puis du 11, 12, 13 heures, à court dans l'entrepôt, elle saute par-dessus des clôtures, elle remplit des camions, il n'y a rien qu'elle ne fait pas, c'est une excellente employée, parce qu'elle n'en pouvait plus d'être chez eux. Vous voyez, les athlètes de haut niveau, ils ne sont pas conditionnés pareil comme moi. Moi, ça fait 30 jours de suite que je travaille, mais si tu me donnes la chance, je reste chez nous en bobette, je me commande de la pizza puis je bois de la slush. Les athlètes comme Céleste, tu leur donnes la chance d'être chez elles à rien faire. Au jour 2, ils sortent puis ils attaquent la vie puis ils travaillent en fou. C'est des gens qui n'ont pas le même cerveau que nous. Fait que Céleste, va chercher les championnats canadiens. Après ça, quand tu auras tout gagné, on te passe chez les pros, puis on détruit la compétition parce que Laurent s'écoute parler, Céleste Baillargeon ne forme qu'une équipe maintenant et on va t'aider dans la suite des choses. J'ai souri cette semaine quand j'ai encore vu passer le fameux article qui sort à peu près, je vous dirais, 17 fois par année, ou si vous préférez, à tous les 3 semaines, il y a quelqu'un qui nous radote que David Lemieux veut affronter Saúl Canelo Álvarez. Première chose, tous les boxeurs entre 160 et 175 livres veulent affronter Saúl Álvarez. Donc, c'est en rien une nouvelle. Deuxième chose, si tu veux affronter Saúl Álvarez, tu ne gagnes pas par un point contre Max Burzak. Et ça, c'est l'impression que j'ai. Je ne vais pas vous dire que j'ai la science infuse, mais j'ai l'impression que David n'est plus vraiment intéressé par la boxe. Les sacrifices, il n'est pas prêt à les faire. On l'a vu avec ses pesées puis son mode de vie quand il boxait chez les poids moyens. Et ce qu'il veut, c'est une porte de sortie ultra payante contre la vache à lait de Golden Boy, Canelo. Tu sais, tu laisses Canelo faire son 33 millions sur DAZN, toi tu ramasses ton 3 millions et demi, 4, ta meilleure bourse à vie, et après ça, t'as assez d'argent jusqu'à la fin de tes jours. Je pense que c'est pas mal certain que c'est ça que David Lemieux en ligne présentement. Et ça, c'est juste moi qui est game de vous le dire. Vous lirez jamais ça nulle part. Vous entendrez jamais ça nulle part. Moi, ça me dérange pas de vous le dire. Lemieux a l'air d'un gars qui cherche un dernier combat payant avant de s'en aller. Sinon, il chercherait à mériter un combat contre Canelo en dévissant 2-3 gars classés, pas en le demandant directement. Parlant Canelo, je vais vous faire une prédiction. Le réseau DAZN qui voit ses inscriptions fondre comme beurre chaud dans la poêle va exiger à Canelo d'affronter Gennady Golovkin 3 pour relancer la boxe et relancer leurs inscriptions. Et pensez-y, ils ont reculé 350 ou 365 millions pour 11 combats, une moyenne de 33, si ma mémoire est bonne, par combat. Après ça, Canelo, lui, il était quasiment en mode où il se dépêchait à les faire pour re-signer avant que le COVID arrive. Puis, tu sais, eux autres, DAZN, c'est pas des fous, là. Ils garochent des centaines de milliers de dollars. Ils voudront pas voir des Rocky Fielding sans arrêt, là. Fait que c'est certain que vous allez l'avoir, votre trilogie. Puis après, vous allez avoir Callum Smith parce qu'eux, ils ont des billets à vendre. Puis ils vont sortir le contrat. Puis ils vont forcer la main à Golovkin et à Canelo de s'affronter. C'est ce qui met fin à ce podcast moins historique, moins légendaire. Je veux vous dire que moi, j'adore faire des entrevues. On a eu Volny, si vous voulez aller voir ça sur Boxing Town de Québec. Et pour cette semaine, ben écoutez, je vais vous le dire, là, Facebook Rencontre m'occupe beaucoup. Et j'ai travaillé plus de 70 heures. J'ai rabouté des choses. Le podcast, je l'ai quasiment enregistré un segment à chaque jour. Ça se peut que ça se tienne plus ou moins, là, mais soyez indulgents, continuez à vous amuser. Et nous serons de retour la semaine prochaine avec toujours moins de combats à parler, mais c'est intéressant quand même, là, ça commence à bouillonner, puis il y a des choses qui se passent sur les médias sociaux, il y a un jeu de promoteur, il y a un jeu de coulisses. On continue à tout surveiller ça. Laurence Écoute Parler, le podcast numéro 1 des jeunes de 18-34 ans.